bonjour. Notre émission s'appellera dorénavant Traversée du monde et non plus dans le vent. C'est toujours le même jour, c'est-à-dire le mercredi à la même heure, 14h. Mais nous avons changé de titre général. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'émission consacrée à la littérature de langue allemande. Et je suis avec Nathalie Ebrard. Nathalie Ebrard nous vient de Strasbourg et je la remercie d'être venue pour cette émission. Elle est éditeur et traductrice, donc elle nous parlera des deux. Et Corinna Gebner, qui est traductrice et journaliste, puisqu'elle a fait ça assez longtemps, nous aide à réfléchir sur un livre qui s'appelle Adalina, publié aux éditions La Dernière Goutte, donc qui ont leur siège à Strasbourg. Alors, je me tourne pour commencer vers Nathalie Ebrard. Alors, Nathalie Ebrard, bonjour. Merci, bonjour. Comme je le disais, de nous venir de si loin pour faire cette émission avec nous. Et je voulais que vous nous disiez, pour commencer, comment on devient éditeur, qu'est-ce qui pousse à devenir éditeur, quel choix d'édition on fait, quel choix éditoriaux, quelle place on espère conquérir dans l'édition d'aujourd'hui, qui est tellement superfétatoire et nombreuse. Voilà, donc dites-nous un peu comment vous êtes devenu éditeur.
Eh bien, on est devenu éditeur, mon compagnon et moi, et un groupe d'amis, parce que nous avions le désir de faire connaître des auteurs qui ne sont pas forcément faciles, des auteurs qui affrontent la noirceur du monde et qui tentent de susciter un plaisir au lecteur en métaphorisant cette réalité. Ces auteurs qui ne sont pas évidents, on avait envie de leur donner une visibilité, de leur offrir un support, un beau support avec un beau papier, de beaux livres. Et c'est en fait une passion de lecteur qui a motivé cette décision un petit peu folle, en effet, eu égard à la surabondance de textes que l'on peut trouver en librairie. Mais on a fait notre petit chemin puisqu'on a fait également de belles rencontres avec des libraires qui nous défendent.
C'est ça. Et donc, vous en êtes à combien de textes publiés ?
Alors, 5 textes. Non, maintenant, 7 depuis hier.
7 depuis hier.
Voilà.
On va parler du petit dernier, je
voilà.
pense.
Voilà. 7 textes publiés depuis hier, donc, et puis une dizaine en préparation.
Une dizaine en préparation, oui, donc oui. Ça va aller plus vite.
Non. Le rythme sera le même, 4 oui. titres par an.
4 titres oui. par an.
Mais comme on a effectivement des contacts avec des auteurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accordé des droits sur plusieurs romans, effectivement, il y a effectivement plusieurs livres qui sont en préparation et qui attendent de sortir tranquillement.
Des projets.
Oui, des projets bien avancés.
Bien avancés.
Il y a, je crois, des romans traduits et puis également de la littérature en français.
Oui, oui. Mais la place des romans traduits est en train de se développer à tel point qu'on va bientôt effectivement considérer qu'on ne sort qu'un titre en français par an. Enfin, on sort 4 romans en français, mais la place des romans français va être de 1/4.
Oui, c'est un choix courageux parce que bon, on sait bien aussi qu'un roman traduit coûte plus cher à publier qu'un roman en langue française. Est-ce qu'il y a des domaines que vous privilégiez ? Des domaines linguistiques et culturels, je dirais.
À vrai dire, on ne privilégie pas d'entrée de jeu un domaine linguistique. Il se trouve que de fil en aiguille, des auteurs nous mettent en contact avec d'autres auteurs, qu'on peut avoir une passion pour des thématiques. Par exemple, un auteur argentin, Bagnès, qui nous emmène sur ce continent, va nous permettre de découvrir d'autres auteurs. Et de fil en aiguille, effectivement, on va développer le domaine argentin. C'est la même chose pour le domaine germanique. Mais on ne se ferme absolument aucune porte, ni aucun imaginaire.
Et comment vous conciliez votre travail d'éditeur et votre travail de traductrice, puisque le livre dont nous allons parler, vous êtes une des deux traductrices, donc à la fois vous traduisez, vous éditez, vous avez un autre métier pour vous faire vivre, donc ça fait plusieurs vies.
Oui, ça fait plusieurs vies et le concilier, ben, en réalité, je dirais que cela va de... Tout s'enchaîne avec beaucoup de fatigue, mais enfin, cela s'enchaîne de façon assez évidente parce que le fait de pouvoir lire dans plusieurs langues favorise la découverte, favorise la lecture des auteurs dans leur langue. Ça permet également de se sentir plus concerné, de se projeter dans leur œuvre et du coup de développer des relations plus personnalisées avec les auteurs. Donc la traduction, l'édition, cela finalement se répond. C'est un jeu de miroir qui est vraiment fécond. Cela me permet aussi de travailler avec d'autres traducteurs et de bien comprendre leur démarche. Et par rapport à notre existence sociale, ben, je pense qu'en réalité, les choses prennent sens. Le puzzle a une cohérence, en fait.
Comme celui de votre livre. Alors, Adalina, parlez-nous du texte et de l'auteur. Comment en êtes-vous arrivée à découvrir ce texte et donc à le traduire ?
Eh bien, il se trouve que c'est notre co-traductrice de l'allemand, Dina Régnier-Sikirich, qui a assisté à une lecture en Allemagne de Silvio Wander lui-même et qui l'a contactée. Elle a lu le texte avec lui. Ils se sont bien entendus et elle nous a proposé ce texte. Donc c'est toujours une rencontre humaine finalement qui est à l'origine de la découverte du texte. Et on a lu Adalina dans le texte, on a été absolument unanimes et on a considéré que cela répondait bien à la vocation de notre maison d'édition, qui était de proposer un texte qui n'est pas sinistre, qui donne du plaisir, qui est sensuel, qui est bien construit, qui joue avec la langue, qui affronte les aspérités du réel, qui dit quelque chose du destin de l'homme et qui propose une belle histoire, une fiction bien menée qui touche notre sensibilité. Et Wander, quand il parle de la jalousie, quand il parle de la violence du père, de l'omniprésence de la mort et de la beauté de la nature, quand il construit une intrigue quasiment faite comme un roman policier à partir du drame humain et de la tragédie de l'enfance, ne pouvait que nous concerner.
Je crois que est-ce que c'est sa première incursion dans le roman, je crois, parce qu'il est en fait il est scénariste,
oui.
Il est dramaturge aussi, je crois.
Oui.
Donc c'est un autre pas en fait sur le terrain de l'écriture. Ça n'est pas une chose facile.
Non, Silvio Wander a écrit, je crois, un roman avant Adalina. Il en a écrit ensuite d'autres. Il écrit des nouvelles. Et là, il vient d'ailleurs de publier encore un livre et il écrit le prochain. Donc, il est vraiment...
D'accord, donc ça l'a vraiment... Il s'est lancé là dans cette...
Mais il jongle avec différents types d'écriture. Il anime des ateliers d'écriture. Il écrit, je pense, en même temps pour le théâtre, effectivement. Et c'est un homme qui écrit les scénarios pour le cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans la fiction, qui travaille la fiction sous toutes ses formes. Et il peint par ailleurs. Donc
c'est un artiste très achevé, si je comprends bien. Oui.
La composition d'un univers, je dirais en fait, mobilise toute son œuvre sous différentes formes en permanence.
Voilà. Et je crois que vous avez traduit ce texte donc avec la personne qui vous l'a fait découvrir. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les secrets ou les procédés, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, d'une double traduction, d'une traduction à deux. Comment ça se fait ça techniquement?
Alors, techniquement, avec Dina Régnier-Sikirich, on a une manière de travailler qui maintenant, effectivement, est un petit peu une recette. C'est même une histoire un petit peu maintenant de vieux couple. On est effectivement complémentaires.
On a fait ses
preuves. Oui. On est complémentaires dans la mesure où Dina Régnier-Sikirich a une formation de comédienne. Elle a été longtemps actrice au théâtre de Freiburg. Et elle lit un texte en se souciant davantage des éléments visuels, très sensuels, très précis. Rien ne lui échappe. Le détail, les petits détails physiques qui peuvent d'ailleurs donner une substance concrète au texte ne lui échappent pas. À l'inverse, avec ma formation de professeur de philosophie, j'ai tendance, moi, à aborder le texte à partir d'une herméneutique, à partir d'une ligne interprétative. Je cherche la structure interne du texte qui va me guider dans la manière de le rédiger en français. Et du coup, sa façon de lire le texte me permet de me contrôler. On dialogue donc énormément. La façon dont elle lit le texte me permet d'être certaine que ma projection dans le texte ne va pas excessivement l'attirer vers l'arbitraire le plus subjectif. Mais je défends l'idée selon laquelle il faut une projection subjective du traducteur dans le texte. Il faut que la pulsion personnelle du traducteur achoppe dans l'univers de l'auteur, parce qu'il y a une rencontre, pour échapper à la littéralité la plus plate. Mais en même temps, il faut un regard qui également rend justice de façon objective au texte et attrape des éléments concrets, réels, pour laisser également l'univers de l'auteur ne pas être phagocyté par le traducteur. Et Dina étant de langue allemande, elle peut véritablement vérifier que je n'ai pas, sous couvert d'une herméneutique savante, été trop extérieur au texte, que je n'ai pas non plus endommagé la rythmique propre de la langue de l'auteur. Et du coup, elle lit le texte en allemand régulièrement devant moi. Je lis le texte en français également. Et par le biais de la matérialité phonique de nos textes, on essaye de rendre hommage à l'écriture de l'auteur.
Et que pense l'auteur? Est-ce que l'auteur a un avis sur cette traduction à deux regards qui me semble d'une très grande richesse?
Il sait comment on travaille, mais je n'ai pas eu de retour de Wonder.
Non, vous ne savez pas.
Non, d'accord. Non, ni de l'auteur précédent pour Itzi, puisqu'il n'est plus de ce monde.
Voilà. Il n'est plus de ce monde, mais Wonder est de ce monde.
Oui.
Alors, nous allons écouter un petit peu de cornet à bouquin dans des airs germaniques que je dédie donc à ce texte. Dit, cornet à bouquin en l'honneur d'Adalina.
Alors Adalina, justement, qui est le personnage féminin qui est au cœur de cette histoire, qui n'apparaît pas directement, mais plutôt dans le souvenir du jeune homme qui est concerné par un amour de jeunesse malheureux. Alors, comment rentrer dans cette histoire qui se développe de manière avec une efficacité tout à fait redoutable derrière des aspects assez flous, en fait. C'est ça qui est c'est un texte très très étonnant. Alors de quoi est-il question?
Il est question d'une réminiscence d'un passé tragique qui envahit peu à peu le quotidien banal et ordinaire d'un jeune homme plein d'avenir. Et le passé, progressivement phagocyte ce présent, il va l'amener à retourner sur les lieux de l'enfance et, hanté par un amour du passé dont il ne parvient pas à faire le deuil, il va d'une certaine manière retrouver son Eurydice. En étant motivé par des petites perceptions inconscientes, une logique souterraine qui l'amène à vivre, à revivre et à accomplir une tragédie qui a commencé 30 ans plus tôt. C'est en fait une sorte de tragédie grecque que Wonder a placée dans une petite ville enserrée dans un paysage sublime de Suisse. Et en réalité, cette fatalité que Wonder met en place avec la précision d'un horloger plonge effectivement dans l'inconscient, dans le refoulé, dans l'infantile de ce héros qui va accomplir sa destinée. Et cela de la page 1 à la page finale, mais le lecteur ne s'en rend compte que bien plus tard. En fait, il entraîne le lecteur dans une logique redoutable qui est celle qui envahit le personnage. Et c'est une logique de la passion, du refoulé, qui m'a semblé particulièrement qui m'a semblé particulièrement bouleversante et qui rejoint des thèmes universels comme la jalousie, comme la passion, comme la violence du père. Mais il le dit avec une langue extrêmement rare et très précise. Et c'est pourquoi nous avons défendu ce livre et nous avons souhaité le publier.
Est-ce qu'on peut dire un mot de l'ouverture ? C'est-à-dire du fait que l'auteur est donc dans une vie banale avec une femme qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'il évoque à plusieurs reprises. Enfin, et finalement, il va comme fuir cette existence. C'est-à-dire, il sort, on ne sait pas trop bien ce qu'il va faire. Finalement, il achète un billet, il se jette dans un train. C'est une espèce de fuite de cette vie-là. Enfin, c'est, moi, je l'ai lu comme ça. Et en même temps, dans le livre, il y aura aussi, à un moment donné, une fuite après le drame dont on va peut-être parler. Il y a aussi une fuite, c'est-à-dire, il ne prévient pas. Il ne prévient pas les parents. Il ne dit pas ce qu'il va faire. Et il fuit quand c'est trop insupportable. J'ai trouvé intéressant ces deux mouvements. De fuite et d'évitement.
Tout à fait. En fait, vous avez tout à fait raison. C'est un voyage dans l'espace. Ça commence ainsi. Il traverse l'Allemagne et se rend en Suisse. Mais en réalité, ce voyage dans l'espace est essentiellement un voyage intérieur. D'ailleurs, la langue change progressivement au fur et à mesure de ce voyage, qui est d'ailleurs dépeint de façon poétique. Les paysages qui s'enchaînent la nuit à partir du train ressemblent à des tableaux de Delvaux, passage à niveau, voiture, blême. On plonge d'ailleurs dans une sorte d'irréalisme. Ce voyage dans l'espace, ce voyage mental est amené de façon assez fulgurante. En réalité, il est amené, si on lit à très très attentivement le début du texte, il est amené par toute une succession d'associations d'idées et d'enchaînements très subtils de petites sensations. Et c'est pourquoi Wander a une écriture aussi sensuelle qui fait attention à des petits faits. Et cela va amener une écriture très cinématographique qui jouera d'autant plus avec les espèces de fondus enchaînés de sensations qu'elle va aussi jouer avec une espèce de vitesse de défilement des souvenirs. Et il va jouer ainsi, l'auteur, il va jouer à partir de cette vitesse de défilement, il va jouer dans son écriture de façon à faire surgir le passé et amener en fait, il y a des fondus enchaînés qui nous amènent à anticiper la suite du roman. Et là, c'est construit comme un polar. Et en même temps, il revient en arrière et fait surgir des éléments qui nous amène, nous, à reconsidérer tout ce qui a été écrit. Il joue sans cesse avec notre imaginaire, notre mémoire, notre faculté d'anticipation. Et c'est un procédé très cinématographique.
Tout à fait. Il y a une espèce de sensation de montage, me semble-t-il, comme dans un film, où à partir de choses filmées, on va faire un montage pour mettre en opposition ou en lien le passé et le présent. Hein, parce que par moments, je trouve, surtout au début, mais même après, on ne sait pas trop si on est avec l'homme d'aujourd'hui qui est revenu dans cette petite ville, avec ses souliers, ses ennuis, avec la police par exemple, ou si on est dans l'autre fois,
avec le petit garçon.
Avec le petit garçon qu'il a été. Je trouve que là, il y a un jeu, en plus de ce que vous soulignez, mais il y a un jeu très subtil, passé-présent, dans lequel on est un peu perdu par moment, ce qui n'est pas déplaisant d'ailleurs.
Ce qui n'est pas déplaisant, et en même temps, effectivement, ça ne rend jamais la lecture difficile. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on est un peu perdu sans se perdre. En fait, c'est vraiment très curieux. Comme effet, il y a une espèce de tenue du texte, malgré tout, qui fait que peut-être aussi parce que ça nous renvoie à une forme de dureté de la fatalité. Donc, quelque part, on continue d'être emmené toujours vers la fin qu'on devine assez vite, tragique,
sans savoir le détail,
sans savoir le détail, mais on sent la tendance, le mouvement, la pente du récit, et c'est troublant, justement, cette façon de conjuguer en fait une espèce de sûreté de la marche du texte et une forme de vagabondage, d'errance. C'est vraiment une grande réussite de ce point de vue.
Et moi, je voudrais ajouter aussi que j'ai trouvé très intéressante l'évocation des familles. Donc, la famille du petit garçon, qui est le petit garçon de l'homme héros, si on peut le dire comme ça. Les familles autour, la bande de jeunes garçons, quelques filles, peu d'ailleurs. Il y a Adalina, mais il y a peu de filles. Alors que dans la séquence finale, mm-hmm. une de ces femmes va revenir.
Il y a les sœurs des copains.
Voilà, il y a les sœurs des copains. Mais je trouve qu'on insiste beaucoup sur le groupe d'enfants masculins, c'est-à-dire sur les enfants, avec ce côté pas guerre des boutons, mais il y a quelque chose de la dureté, de la méchanceté des petits garçons entre eux et de la façon dont ils se persécutent plus ou moins. Ils se battent, il y a une ou deux bagarres très étonnamment décrites. Ouais. Enfin, voilà.
Et c'est vrai que Wonder insiste sur les différentes formes de déterminisme. Il y a le déterminisme du passé et il y a le déterminisme social, le conformisme social. Et il montre d'ailleurs avec une certaine cruauté, avec une grande lucidité, la violence sociale larvée qui phagocyte les discours au cœur de la famille suisse. Ordinaire. Il montre les lieux communs du langage du père et de sa virilité de pacotille avec son service militaire qu'il impose à la maison régulièrement. Wonder, effectivement, fait une analyse sans concession de l'âme populaire d'une certaine population suisse et qui n'a pas forcément d'ailleurs peut-être toujours les moyens à cause d'une certaine ignorance, à cause du pouvoir des mass médias. De remettre en cause ce déterminisme, ce conformisme-là. Et c'est vrai, ce que vous soulignez est très juste concernant la vitalité et la cruauté, la violence également des petits garçons. La vie des petits garçons qui s'interrogent sur leur rapport au corps, sur ce que c'est qu'une fille, sur qui est l'autre. Cette violence-là, Wonder lui donne toute son ampleur parce qu'il il met en valeur la crudité du langage des enfants. Et ça va lui permettre de montrer la violence et la sournoiserie du silence des adultes et la puissance des tabous qui rongent toutes ces sociétés suisses.
Et donc ça, je dirais que ce n'est pas nouveau dans la société suisse, mais qu'on a de plus en plus, semble-t-il, des écrivains qui sortent de Suisse, ce qui est quand même intéressant. Hein, je crois que ce livre a mis 12 ans à sortir et que c'est vous qui l'avez trouvé, enfin par la façon dont vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez trouvé, vous l'avez traduit en français, donc il n'est pas nouveau en Suisse, mais il est nouveau traduit en français. Et donc il y a toujours eu, me semble-t-il, dans la littérature suisse, une dénonciation de la société un peu bloquée que peut être la société suisse. Mais en même temps, quand ça sort et que ça nous est apporté, je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses aussi sur ce pays européen, mais sans lettres, enfin qui a un statut un petit peu bizarre dans cette Europe de l'Ouest.
Alors il est vrai que Wonder vit à Berlin. Oui. Pour rien au monde, il ne retournerait en Suisse. Et il n'a pas fait son service militaire.
Ah oui. Il a eu des ennuis avec la justice ou la police, je ne sais plus.
Je ne crois pas la justice, mais effectivement, il a eu quelques conflits avec les institutions suisses. Mais il les retourne puisqu'il il anime des ateliers d'écriture.
Oui, donc on le laisse entrer.
Quoi, oui.
Même s'il n'a pas, s'il a été puni, mais s'il n'a pas, réalisé sa punition. Donc, est-ce que d'après vous, Nathalie Ebrard, il y a une différence entre l'univers suisse dont on parle un peu et l'univers allemand, puisqu'on est dans la même langue? Cet auteur vit à Berlin, fait du théâtre à Berlin, etc. Et en même temps, vous dites qu'il ne veut pas retourner en Suisse. Or, on est bien dans le même univers linguistique, en tout cas.
Alors, il s'agit de langue allemande, mais on n'est pas tout à fait dans le même univers linguistique. Il en joue d'ailleurs lorsqu'il fait son voyage intérieur. Et il joue également de la présence du romanche pour souligner, en fait Wonder joue de la langue allemande et des possibilités que l'univers linguistique suisse lui offre pour souligner toutes les stratégies du silence et de la violence sociale dans la façon dont les êtres vont pouvoir s'exprimer. Donc il utilise à un moment donné le romanche pour souligner les stratégies d'évitement des adultes. Il utilise la langue suisse pour montrer la trajectoire d'un jeune artiste berlinois qui revient aux sources. Donc je dirais que c'est un auteur qui attrape les matériaux linguistiques qu'il a à sa disposition.
Oui, et qui sont d'ailleurs très liés aussi, qui ont une valeur très positive, par exemple liée au personnage du grand-père. Donc cette utilisation de la langue n'est pas là uniquement pour souligner finalement tout ce qui se fait, son chemin sournoisement et sourdement. C'est aussi un ancrage affectif très profond. Et ce personnage du grand-père est magnifique d'ailleurs.
Ah oui, très beau. Très
le cantonnier.
Thank you. Alors nous revenons à notre traversée du monde avec Nathalie Ebrard et Corinna Gebner. Alors Adalina, à mettre entre toutes les mains avec cette écriture très étonnante, ce montage très moderne puisque cinématographique, je trouve que c'est effectivement un auteur qui mérite d'être suivi. Je ne sais pas si vous traduirez d'autres choses de lui, mais on peut l'espérer.
On est assez tenté par ses nouvelles actuellement. Oui. Et c'est vrai que ce livre et l'œuvre de Wander nous plaît énormément parce qu'il conjugue à la noirceur, à la lucidité, à la verve de sa critique sociale. Il y conjugue également un regard plein de poésie et il ne rechigne pas à mettre beaucoup de touches comiques. Et qui d'ailleurs ne minimise pas la gravité de son propos.
C'est ça. Donc un comique qui souligne plutôt la gravité que de l'enlever. Oui. Alors dites-nous quelques éléments de vos projets futurs à part ce livre qui vient de sortir.
Eh bien, on réédite également Un jour ouvrable de Jacques Sternberg, qui est un bijou surréaliste montre le talent multiforme de Jacques Sternberg, qui dépeint l'absurdité du quotidien avec une grande poésie, qui introduit un humour digne des Marx Brothers et en même temps une peinture kafkaïenne de l'existence rationalisée à l'extrême par la bureaucratie dans nos vies contemporaines.
Donc à lire, et on passe à l'Argentine peut-être, que vous avez annoncé tout à l'heure.
On va éditer sur les 4 années à venir l'œuvre de Gabriel Bagnez, un grand auteur argentin qui a eu le prix Lettres à Sourds. On va commencer par sortir Les enfants disparaissent en janvier prochain, qui est une peinture très poétique de la disparition de l'innocence. Les enfants disparaissent, c'est un titre effectivement qui a plusieurs sens.
Bien sûr.
Les enfants disparaissent, cela fait aussi écho au drame de l'histoire de l'Argentine.
Bien sûr.
Et Gabriel Bagnez, c'est quelqu'un qui métaphorise la dureté du réel et qui peint des fictions pleines de vie, pleines d'espoir, mais effectivement qui font aussi écho à des choses douloureuses. C'est un auteur qu'on va...
Voilà, et que vous allez suivre, c'est ça que j'entends.
Et qu'on va faire
connaître. Votre première traduction, mais il y en aura d'autres qui suivront. Et un autre auteur argentin qui est une femme.
Oui,
c'est ça.
Oui, oui.
Très bien. Alors, merci beaucoup Nathalie Ebrard pour donc Adalina, Silvio Uhnder. Alors, c'est écrit H-U-O-N-D-E-R, ce qui n'est pas évident toujours à prononcer. Et donc, les éditions La Dernière Goutte, dont Nathalie Ebrard est l'éditeur, tout simplement. Merci beaucoup. Pardon ?
L'heureuse directrice.
L'heureuse directrice, voilà. Et à bientôt peut-être pour vos romans argentins.